This is the board with non-commercial stakeholders in the Los Angeles Ballroom for October 14th, 2014, from 15:45 to 16:45.
can make them in. brilliant human design. I have a picture of it in here.
Megan?
Okay. Okay, if we can just...
Si nous pouvions... Bruce Tankin, oui, ben si nous ne pouvions commencer... Si la diapo qui montre les sujets de la conversation pouvait être affichée, s'il vous plaît. La liste de sujets... Ils n'ont pas été affichés. Peut-être Rafik peut nous les rappeler, peut nous rappeler ces sujets. Donc les droits de l'homme en numéro 1. Oui. Rafik Damak, ah oui, en premier. Je voudrais remercier encore une fois le conseil d'administration pour nous donner l'opportunité de les retrouver, de communiquer avec eux et de partager nos questions et de recevoir leur retour d'information. Peut-être nous devrions discuter. Nous avons pensé à 4 sujets, donc la considération des droits de l'homme à l'ICANN. Cela va être présenté par Avril Doria. Ensuite, nous parlerons du processus ascendant de l'ICANN, qui sera présenté par Bill Drake, et ensuite le rapport des groupes d'experts sur les processus pour le WHOIS, la réforme de WHOIS qui a été traduite donc en tant que politique maintenant, et ensuite cela sera présenté par Cathy Kleiman, et ensuite nous aurons une discussion sur les résultats à ce jour du rapport ATRT2. Donc on va commencer par notre premier sujet, et cela sera présenté par Avril. Avril Doria au micro, oui. Donc le sujet le rapport du COI est sorti et discuté des différentes questions des droits de l'homme, les droits de l'homme qui sont impactés par des décisions variées de politique. Cela va au-delà des droits de vie privée dont on a parlé beaucoup, bien sûr, et des problèmes de confidentialité. Mais il y a aussi la liberté d'association dont nous avons parlé. Nous avons parlé des obligations de l'ICANN, pas les obligations de l'État en termes de protection des droits de l'homme. Mais il y a, de la part du Conseil, on voit qu'il y a eu une obligation pour les commerces, les affaires, de se comporter de bonne façon vis-à-vis des droits de l'homme. Donc le COI a publié un rapport, un document qui parle de ces questions. Une des choses que nous avons vues dans ce document, c'est qu'il recommandait... Nous savons que le GAC est composé de gouvernements. Il y a donc une responsabilité pour le GAC, de la part du GAC, qui doit prendre un certain rôle là-dedans. Nous avons donc eu une réaction. Un de nos membres, Blessa, a écrit un autre document et qui disait qu'au lieu... du fait que le GAC soit, au lieu que le GAC soit responsable pour les considérations des droits de l'homme dans les politiques de l'ICANN, que peut-être nous devrions observer, disons, décider d'une notion d'avoir un comité conseil pour les droits de l'homme. Donc, nous avons commencé à parler de cela et nous sommes dit, ça va un peu trop vite. Donc, nous avons reconnu que la réalité de tout cela. Nous voulons voir si nous pouvons travailler avec la communauté en utilisant un processus ascendant pour voir quelles sont les demandes pour une telle chose. Il y a donc une réunion demain, qui sera a été nous avons dû à cause les gens du personnel nous ont mis une salle à disponibilité demain. Il y aura donc une réunion de 1h40 de 13h15 demain et nous allons donc voir un peu ce rapport et voir ce que nous allons faire dans l'avenir. Nous allons mettre ensemble une équipe qui pourrait produire une version préliminaire, qui pourrait donc voir et se préoccuper de toutes ces questions de droits de l'homme et peut-être voir aussi s'il y a une possibilité d'aller au-delà de cela et de recommander une sorte de d'un comité donc conseil pour les droits de l'homme. Ce qui ressorti de cette discussion, nous avons vu que nous demandons est-ce qu'on a regardé la gamme entière des problèmes des droits de l'homme, des droits de l'homme qui sont pertinentes donc à ce qui se fait dans la CAN, aux politiques de la CAN. Souvent, nous avons une partie une partie des informations et des fois nous regardons par exemple ESSAC. Et quand nous voyons, quand on parle de sécurité et stabilité, on va chercher, on va trouver les bonnes personnes, les experts qui puissent analyser les situations auxquelles on fait face. Et là, on peut ensuite livrer un rapport très bien considéré sur les questions, les problèmes, s'il y en a. Et des fois, il y a des gens qui questionnent l'idée. Il y a encore des discussions. Mais malgré tout, le conseil d'administration participe éventuellement aux discussions. Et ainsi, nous n'avons besoin de quelque chose de plus considéré, disons. Quelque chose qui a un petit peu le même niveau d'expertise au niveau des droits, de conseil, pour pouvoir conseiller donc la communauté sur les droits de l'homme, comment on le fait pour la stabilité et la sécurité. Donc, c'est le début d'une conversation qui a été initiée par le COI, le document COI que nous conseillons de lire à tout le monde. Mais voilà donc ce que nous avons sur cela. Merci. Steve Crocker. Nous avons une mission et la sécurité et la stabilité des identifiants en fait partie. Il y a des choses très importantes dans ce monde. La conservation de l'énergie, les effets de serre, beaucoup de problèmes. Et encore une fois, les droits de l'homme, c'est beaucoup plus important. Tout s'arrête quand on parle des droits de l'homme parce qu'il y a une importance première. Mais je ne vois pas la connectivité avec ce qu'on... Every Doria, si je pouvais répondre, je pense que c'est presque une des raisons pour laquelle nous devons en parler plus. Parce que les gens pensent aux droits de l'homme comme quelque chose qui n'est pas différencié, un espèce de panier dans lequel on met tout. Et ce qu'on a vu, c'est qu'avec le rapport COI, c'est qu'il y a des choses très spécifiques, des décisions de politique que nous faisons qui ont un impact sur les droits de l'homme, qui ont un impact sur ceci dans le système écosystème. De l'Internet, dans l'écosystème d'Internet, dans le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas en position de reconnaître tout cela. Nous pensons que nous parlons de quelque chose en général, comme par exemple les gaz d'effet de serre. Ce dont on parle, c'est l'impact de. On parle de l'impact de notre travail. On voit le début de cela dans le domaine de la vie privée, par exemple. Donc, nous savons que le monde fait plus attention à ce domaine, mais nous avons vu les problèmes de vie privée ont à voir avec les politiques que nous mettons en place. Il y a peut-être d'autres choses, la liberté d'expression, par exemple, qui est impactée par les décisions que nous prenons au niveau politique, des politiques. La liberté d'association. Nous ne parlons pas de toute la gamme, mais nous parlons du fait que nos politiques ont un impact sur les droits de l'homme. Steve Crocker, oui, c'est juste, mais comment est-ce qu'on va passer de ce qui est très spécifique à Je pense que c'est quelque chose de pertinent pour le NCSG que le SGNU nous amène dans ce domaine. C'était apporté au GAC en premier. L'idée, quand le NCSG avait apporté ça au GAC, on dit que c'était le travail du GAC. C'est le travail, en fait, bien plus large que ça. C'est le travail du système multipartite. Oui, le rapport COI qui a été amené au GAC comprend toutes les considérations en question, mais nous ne pouvons pas laisser cela seulement dans les mains du GAC. Rafik Damak, oui, je pense que Ray veut faire un commentaire. Ray, Plosac, oui, ça vaudrait peut-être la peine pour ce groupe de parties prenantes, cette unité constituée, cette partie contournante, c'est de regarder un peu, d'observer le processus de plus près, le processus de politique de développement de politique du GNSO, et ainsi peut-être injecter donc une espèce de regard sur les droits de l'homme, et ainsi cela serait plus inclus dans les politiques, et de cette façon il y aurait cela, disons, et élargirait un peu la reconnaissance de ce problème. Si on fait les choses de façon ascendante, on sait que les gens, à la base, sauront qu'il y a un endroit dans le processus où il y aura une vérification, où que les choses seront donc considérées. Cela vaut la peine de penser comme cela. Et si une politique spécifique n'a pas d'impact sur les droits de l'homme, cela devrait être ainsi noté. Mais c'est une façon, ce serait peut-être une façon d'internaliser, disons, au sein du GNSO. C'est juste une suggestion whiteboard pour l'instant. Avec, nous avons Bill et ensuite une autre personne qui veut faire un commentaire. Donc Bill, quand j'étais au comité consultatif, certains des problèmes étaient que les problèmes des droits de l'homme, les éléments des droits de l'homme, nous avions soulevé ce problème. En général, les collègues du secteur privé qui n'avaient pas l'habitude de penser aux problèmes des droits de l'homme dans ce qu'ils faisaient tous les jours, ils étaient un petit peu, ils étaient perdus, disons. Ils ne voyaient vraiment pas quel était le point qu'est-ce que ça les concernait dans leur activité. Ce que nous avions suggéré, c'est que si on avait un groupe qui travaillait là-dessus, sur la pensée un peu adoptée, le sentiment adopté, cela rendrait la chose dont vous parlez quelque chose de durable, de viable. Ce qu'on fait maintenant, on peut faire, on pense que c'est un problème de droits de l'homme, et puis d'autres personnes dans un autre secteur pourraient dire, nous ne comprenons pas, nous ne travaillons pas dans les droits de l'homme. Comment est-ce que cela concerne les droits de l'homme? Voilà, il y a un défi de ce côté-là. Et nous voyons ainsi que nous pouvons cibler ceci en tant que processus GNSO. Et il pourrait, dans les statuts, il pourrait y avoir une annexe qui parlerait de toute la discussion des étapes à prendre. C'est pas le NCSG. Je suggère que le NCSG prendrait sur eux-mêmes pour initier donc un changement à ce processus. Et ensuite, vous auriez un débat entre tout le monde, disons, et s'il y avait quelque chose qui vient d'un endroit qui n'est pas considéré, au moins nous y aurons pensé, disons. Bill Drake, je ne voulais pas faire du va-et-vient avec vous, mais la question là, c'est que est-ce que vous voulez limiter quelque chose à la conversation GNSO alors qu'il y a d'autres parties de la communauté qui ont un intérêt important dans la question? Bill, oui, c'est non, c'est comme de faire pousser de l'herbe. Si vous poussez un petit morceau, planter un petit morceau avec de l'herbe, tout ça, l'herbe va continuer à pousser dans un espace plus important. Il faut commencer quelque part.
Oui. Bien, nous avons Gonzalo qui souhaite intervenir maintenant, Avery, Rafik Damak au micro, Stéphanie et Wolfgang. Commençons donc par Gonzalo. Gonzalo Navarro au micro. Merci Rafik. Je crois que Ray faisait une bonne suggestion. Un premier pas pour commencer ce processus, ce serait celui-ci. Parce que c'est la bonne chose à faire, je comprends. Mais j'ai un commentaire à faire. J'étais au FGI lorsque le rapport du Conseil de l'Europe a été présenté. Il ne s'agit pas en soi d'un rapport élaboré par le Conseil de l'Europe, mais sponsorisé par le Conseil de l'Europe ou parrainé par le Conseil de l'Europe. Donc, et j'ai participé à un panel spécifique qui traitait d'une question qui allait au-delà de l'ICANN. Il parlait des droits de l'homme dans l'espace de l'Internet. Et le rapport traite de nombreuses questions qui ne relèvent pas uniquement de l'ICANN, ni de la mission qui relève de l'ICANN. Donc ce qui pourrait être intéressant dans cette discussion, c'est de penser avec soin à ce qui s'inscrit dans le domaine des droits de l'homme et à avancer dans ce domaine. Rafik au micro, Avery Doria au micro. Oui, je pense que ce que vous venez de décrire, ça fait partie du travail que l'on entend mettre en place avec le groupe de travail intercommunautaire. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Nous pensons qu'il est très difficile pour l'ICANN de comprendre effectivement comment est-ce que les droits de l'homme s'intègrent dans notre mission, notre travail. Or, je pense qu'il s'agit d'un effort fondamental qu'il faut faire. Il ne s'agit pas simplement d'un effort qui relève de la GNSO, mais de notre communauté dans son ensemble. Donc, c'est une très bonne suggestion de voir. Écoutez, voyons quelles sont les procédures de la GNSO. Et s'il y a un endroit qui nous permette de prendre en considération cela, alors faisons-le. Mais en fait, on fait partie de... On coopère tous dans un effort fondamental avec d'autres pour essayer de faire en sorte que cela prospère. Rafik, j'ai une longue liste. On va commencer par Stéphanie. Stéphanie Perrin au micro. Je suivais ce que M. Plazac a dit par rapport au processus de politique, de développement de politique. Effectivement, c'est une très bonne chose à faire pour commencer. Très souvent, il y a une évaluation des risques qu'il faut faire. Et ça, il va falloir le faire avec de manière holistique, générale, complète. Donc peut-être qu'il faudra voir si cela aura un impact sur tel ou tel groupe. Donc il faudrait vérifier cela. Mais si on commence avec la GNSO, ça pourrait être très bien. Commencer également avec le SAC et voir dans quelle mesure la mise en œuvre pourrait avoir un impact sur les droits de l'homme, en particulier pour ce qui concerne la confidentialité. De sorte qu'on puisse prendre en considération les travaux du groupe de travail intercommunautaire. Merci Stéphanie. Wolfgang Klein-Wachter au micro. Très brièvement, j'aimerais proposer une approche différenciée et équilibrée. On ne sait pas encore exactement quel pourrait être le résultat. Mais il faut bien commencer ce débat. Et il faut se concentrer sur les questions liées aux droits de l'homme et ne pas prendre les droits de l'homme dans leur ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de confondre. L'ICANN, ça n'est pas un organe qui s'occupe des droits de l'homme, mais conformément à ses statuts, l'ICANN, avec ses partenaires, ne néglige pas l'aspect droit de l'homme et se doit de respecter les traités internationaux dans le domaine des droits de l'homme. Donc, on a eu un débat sur les recommandations LE1, et vous savez que les bureaux d'enregistrement sont en train de batailler dur là-dessus. Elliot Noss nous en a parlé. Et c'est un cas intéressant qui est lié directement ou indirectement au débat que nous avons en ce moment sur les droits de l'homme. Donc, je pense que on a mis le doigt sur le problème et finalement sur la solution. La GNSO et les bureaux d'enregistrement avec les parties contractantes ont des problèmes qui ne sont pas forcément réglés. Et donc, voir ce qui s'est passé au sein de la GNSO, ça pourrait constituer un premier pas pour avancer par rapport à cette recommandation. Rafik, merci Wolfgang. Je crois que Mike souhaite intervenir. Mike, au micro. Merci. Je crois que ici, il y a une mauvaise interprétation des choses. Il y a une mauvaise vision des choses. Je suis tout à fait d'accord pour faire en sorte que les droits de l'homme soient pris en compte dans nos processus de politique. Mais je ne pense pas que l'on puisse avoir un mécanisme en place propre aux droits de l'homme. Je pense réellement qu'il faut l'inscrire dans le processus de développement des politiques. Et j'aurais tendance, même si vous aurez du mal à le croire, à être d'accord avec Ray. Parce que dans la CCNSO, qu'il s'agit d'un problème qui relève en premier lieu de la GNSO. Parce que je suppose que les NRO auront le même point de vue s'agissant des RIR. Donc, ils ont leur propre processus interne. Et je pense que cela pourrait créer un précédent que certains voudraient suivre. Mais ce que l'on ne peut pas faire, c'est dire, bon, on ne va pas mettre un veto sur ce qui se produit dans l'organisation. Donc, il ne s'agit pas de sélectionner les meilleures choses et les choses les plus brillantes pour ASAC. Lorsqu'on a besoin de plus d'expertise dans un domaine, alors ce groupe se réunit et sélectionne les meilleures personnes et les personnes les plus les mieux formées pour cela, les plus aptes. Nous avons Milton maintenant. Milton au micro. Oui, j'ai écouté le point de vue de plusieurs membres du conseil d'administration. Et il semblerait que ma proposition a été entendue, à savoir que la proposition qui souhaite pousser cela au niveau de la GNSO a été entendue, mais j'ai eu l'impression que Steve et Gonzalo n'ont pas entendu le lien entre les droits de l'homme et la politique de l'ICANN du tout. Donc je voudrais revenir là-dessus. Effectivement, avec le Conseil de l'Europe, qui a un avocat spécialiste en droits de l'homme internationaux qui explique la suppression de telle ou telle chose par rapport au droit international et quelles sont les implications en termes de confidentialité de Huiz. Je pense que cette question, justement cet élément, c'est le lien que Steve ne voyait pas. Que nous ayons besoin d'un comité consultatif ou pas sur cette question, c'est une question de procédure et d'organisation dont il faut débattre, bien sûr. Si l'ICANN, par exemple, dit à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas enregistrer un nom de domaine Sux, et qu'il s'agit là d'une violation de la liberté d'expression, alors les cybersquatters peuvent, eux, occuper indûment un domaine de marque déposée. Et ça, c'est la violation des droits d'une personne possédant une marque déposée. Donc, vous affirmez, Steve Crocker au micro, que nous avons dit à quelqu'un qu'il ne pouvait pas enregistrer ses socks. Milton Müller au micro, oui, il y a une analyse de cela qui a été faite par le Conseil de l'Europe sur un cas très spécifique. Il s'agit du point SOX. Steve Crocker au micro, oui, je n'étais pas sûre de la réponse directe à apporter à votre question. Vous affirmez qu'il y a un exemple où on a utilisé où on a refusé un enregistrement de point SOX, Milton Müller. Non, je pense que dans ce cas, il y a une objection du GAC à cela. Et c'est simplement un exemple de droit de l'homme impliqué dans les décisions, dans vos décisions politiques. Rafik, Niels, puis Avery. Niels au micro, oui, il faut pas oublier qu'il y a une responsabilité des entreprises de protéger les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est finalement pas comme de l'herbe, c'est plutôt comme le temps, le climat. Ça n'est pas quelque chose dont on devrait s'occuper, nous, mais les et pas les gouvernements, la société civile, mais nous, multiparties prenantes. Et si on le transfère au niveau de la GNSO, alors ça veut dire que les politiques de la GNSO uniquement auraient un impact sur les politiques de droits de l'homme. De plus, il y a énormément d'experts dans le domaine des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, qui sont tout à fait disposés à participer à cet effort spécifique. Donc je pense que ce serait une très bonne chose d'impliquer tous ces gens dans cet effort. Avery au micro, brièvement. On n'a pas parlé de structure qui imposerait quelque chose sur quiconque. Je n'ai jamais vu SAC imposer un mandat de sécurité sur les autres membres de l'organisation. Il y a un rapport que l'on peut examiner et on peut analyser, voir s'il y a des choses à prendre en considération ou pas. Donc, je n'ai jamais vu le conseil d'administration prendre un rapport du SAC et dire, voilà, il ne faut plus faire cela. Donc, il faut voir quels sont les risques, les problèmes, mais aucune décision n'est imposée. Rafik au micro, merci Avery. Je pense que la liste des intervenants est close maintenant. Carlos, oui, Carlos encore souhaite intervenir. Carlos Alfonso au micro. J'ai vu pendant un certain nombre d'années le NCSG traiter les questions des droits de l'homme. Et il semblerait que les choses tournent en rond. Et j'ai bien peur qu'on ait un autre cas de who is. Tout le débat de who is et de la discussion autour de who is qui n'en finit pas. J'aimerais proposer que l'ICANN fasse un effort à court terme pour mettre en place un cadre de droit civil, c'est-à-dire un cadre dont l'ICANN disposerait comme référence pour tout travail opérationnel, tout travail de coordination. Autrement, on va continuer à tourner en rond et avoir des discussions sans fin. Merci. Rafik au micro, Carlos. Gonzalo Navarro au micro. Oui, je crois qu'il faut que je précise mon intervention précédente parce que peut-être que ça a été mal compris. D'abord, j'ai dit que je pense que la GNSO est un bon point de départ pour commencer ce processus. Ça, c'est ce que j'ai dit en premier. Ensuite, je pense que les droits de l'homme sont très importants et qu'on doit avoir une discussion à l'ICANN sur cette question. Ce que j'ai dit, c'est que, d'après moi, lorsque j'entends que ce rapport a été parrainé par le Conseil de l'Europe, je pensais que la portée de ce rapport allait au-delà du mandat de l'ICANN. Donc j'ai suggéré que l'on examine ce rapport pour voir dans quelle mesure ce rapport, ou les suggestions faites dans ce rapport, dans quelle mesure celle-ci s'adapte à la mission et au mandat et à l'environnement de l'ICANN. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des problèmes ou des questions qui vont au-delà de l'ICANN, comme la confidentialité ou la rétention des données. Peut-être qu'une analyse sur les implications concernant les marques déposées est nécessaire, mais d'après moi, et à première vue, je pense que c'est ce que fait l'ICANN. Je ne suis pas en train de dire que le rapport ou les droits de l'homme ne devraient pas être analysés ici à l'ICANN. Merci. Rafik au micro. Merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir passer à l'analyse du deuxième point. Bill, est-ce que vous pouvez faire votre présentation ? Je ne comprends pas l'humour français non plus, donc Bill, pouvez-vous nous faire cette présentation ? On ne suit pas l'ordre des questions ? Bien. Alors, on a demandé au conseil d'administration, quel est le modèle, le processus ascendant multipartie prenante de l'ICANN, la responsabilité et la confiance. C'est un processus dont on a parlé au fil des ans et ça a donné lieu à des réponses relativement identiques. Et je pense que le contexte a changé par rapport au contexte précédent, par rapport au processus de responsabilité, par rapport aux échanges qu'on a eus, par rapport également aux réponses apportées par les présidents des SO, SA, CAC, pardon, par rapport au fait que Fadi également a soulevé un certain nombre de questions par rapport à la confiance. Et donc, il y a eu des débats et des rapports sur des personnes haut placées pour savoir si ce processus ascendant a un statut particulier au sein de l'ICANN comme principe directeur. Et si vous regardez les statuts de l'ICANN, ce modèle ascendant, multipartite, n'apparaît pas. Donc, ce dont je voulais parler avec vous, c'est de deux points en particulier. D'abord, du point de vue opérationnel, comment voyez-vous le fonctionnement de ce processus ascendant par rapport au fait de savoir où commencent les choses, qui participe et à quel moment, et par rapport au fait de savoir quels sont les processus de responsabilité qui vous viennent à l'esprit dans ce processus ascendant. Et ensuite, et c'est lié au premier point, que pensez-vous quant à la possibilité d'ajouter le terme ascendant dans les valeurs des statuts de l'ICANN ? C'est-à-dire avoir une position par rapport en termes de rapport avec les gouvernements impliqués dans différentes organisations internationales. Est-ce que ça serait utile que l'ICANN établisse formellement et officiellement un processus ascendant?
Chris Desmet, je voulais adresser les deux questions que vous avez. Oui, c'est vrai que le processus de redevabilité est un bon exemple dans ce qu'il a dit du modèle ascendant. Est-ce que si quelque chose se passe, vous n'aimez pas ça, le sujet est réouvert encore et encore, je pense que c'est pas une bonne chose. Vous parlez ascendant. Le multipartite, ça ne veut pas forcément dire ascendant. J'ai une question pour vous. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il n'y a pas une différence, mais si vous pensez qu'il y a une différence, pourquoi y aurait-il une différence entre un groupe de membres du conseil d'administration qui publierait un papier sur les NOMCOM et que vous publieriez un papier sur les NOMCOM? C'est un modèle multipartite dans lequel nous faisons tous partie. Nous avons eu des problèmes avec ça. Je ne sais pas quelle est la théorie, je ne comprends pas la différence. Il me semble que si vous le faisiez, vous pourriez dire « Ah, on a fait telle ou telle chose à propos d'un NOMCOM, mais nous, on pourrait faire la même chose. » Et c'est ce que nous avons fait. Je vous pose donc je pose la question de retour. Peut-être que je n'interprète pas la chose, le modèle ascendant, c'est pas une bonne chose. Peut-être que ça devrait être inter-croisé, disons. Inter et ascendant. Cross-up. Il y a une Bill Drake, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suppose que mon opinion... les relations structurelles et les positionnements des différents acteurs dans le système doivent être considérés par le conseil d'administration, qui est l'autorité ultime pour prendre les décisions. Chris Dispen, oui, je comprends ça, mais quand je pense que certains des membres du conseil d'administration qui produisent des documents, est-ce que ça serait bon si c'était le CCNSO qui le faisait? Je comprends pas ce que vous. Quelle est la différence? Avery, oui, moi je voulais répondre à cela. Je crois que, surtout pour le papier sur les documents NOMCOM, qui était un effort qui est sorti d'un groupe de travail qui avait été envoyé à la base pour que ce soit évalué. Dans ma définition, il y a deux restrictions que vous pouvez faire sur l'ascendant. Les questions doivent monter de la base, de la terre, ou les questions doivent toujours retourner vers la base, vers la terre. Donc, c'est pour ça que vous aviez publié le papier NOMCOM et vous avez demandé au monde, même la base, disons, que tout le monde donne son opinion. Avec le processus de redevabilité, de responsabilité, il y a plus, il y a un design, une information qui nous dit ça va être comme ça, et ça a évolué de façon ascendante, et c'est devenu ascendant. C'est peut-être pas comme ça que le processus ascendant devrait fonctionner à la base, mais en regardant en arrière, et la dernière chose que je voulais dire là-dessus, quand on regarde le premier sujet dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois le processus de ascendant a été utilisé, par exemple, mais en fait, oui, en regardant la définition du modèle ascendant, cela devient une discussion qui est valable. Et l'idée de savoir si c'est un de nos principes. Si c'est un de nos principes, est-ce qu'on peut être d'accord sur ce que l'on veut dire par cela? Rafik, Tamak, oui, ok, Sébastien, merci. Sébastien Bachelet, oui, merci. Est-ce qu'on a de l'interprétation?
Interprétation, et donc vous pouvez accepter d'utiliser les langues qui nous sont et les outils qui nous sont proposés. Merci. Cette discussion sur le rapport fait par un groupe du board sur le non-com, ça fait déjà plusieurs heures qu'on en discute dans différents groupes, et il y a un moment où je ne peux plus continuer à juste dire, à me taire et à laisser les choses se dire comme ça. Et il n'y avait pas, le groupe de travail n'était pas multi-stakeholder, c'était une petite partie du board, et d'autre part, le non-com était en train de travailler sur un papier pour proposer des réformes. Donc, et on leur a dit de s'arrêter de travailler. Donc, je veux bien qu'on prenne des exemples, mais essayons d'être un peu ensemble sur la réalité de la vie et de la situation. Parce que on peut discuter sur est-ce que c'était bottom-up, est-ce que c'était multi-stakeholder, mais quand il y a un papier qui est fait, il oriente la discussion. Et le problème est totalement là, c'est qu'il oriente la discussion alors qu'il aurait été intéressant d'avoir une... peut-être qu'un autre papier aurait orienté la discussion totalement différemment et on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc j'aimerais bien qu'on soit bien conscient que c'est un petit groupe du board qui a fait ce document et c'est tout. Le reste n'a pas... ça ne peut pas être un exemple de bonne pratique, me semble-t-il. Merci.
Merci, Sébastien. Next is Bruce.
En prochain, nous avons Bruce, Rafik. Rafik, oui. Bruce, je pense qu'en répondant à votre question, Bill, quand on parle du processus de redevabilité ou de responsabilité, je pense que, c'est, comme Chris et Avril l'ont dit, c'est mis en avant pour que la communauté donne des informations, du suivi, disons. Quand on revient au début de ce processus, je me souviens, il y avait eu une session, on avait eu une durant une réunion publique, et on avait parlé de ce que devait être la responsabilité. Et puis... ma critique là-dessus, c'est que la réaction au feedback, au suivi, a été trop lente. C'est commun dans beaucoup de groupes, que ce soit une équipe d'évaluation ou autre. Quelque chose doit être produit, mais c'est toujours lent et c'est facile de critiquer. Ça aurait pu être fait de meilleure manière. Mais quand il s'agit... Pardon, excusez-moi, j'ai un problème de micro. De qui initie le travail de politique? Vous savez, il y a des statuts. Le conseil d'administration doit demander qu'un rapport sur les questions. Et ce que l'on peut faire, tout simplement, on peut dire que c'est une question et qu'il y ait un rapport qui soit fait sur cette question, un rapport thématique sur cette question. Je pense que dans ce sens, c'est à 100 ans. Je suis d'accord avec vous, quand on pense aux valeurs centrales, aux valeurs de base, et quand je pense la terminologie qu'on utilise, quand on voit que ça a été écrit en 90 ou en 99, et la terminologie qu'on avait utilisée à l'époque ont changé. Quand on pense à la diversité, aux régions géographiques, et ainsi de suite, donc... on pourrait ajuster donc pour que le concept de ascendant soit conservé. Quand on parle des mécanismes de développement de politique de transparence, par exemple, on devrait fournir des décisions basées, des décisions bien informées et des conseils experts. Il faut que toutes les parties concernées soient bien informées sur le développement des politiques. Nous devons fonctionner de façon géographique, politique et culturelle. Et il faut incorporer du nouveau langage, autre que, pour moi, par exemple, bottom-up, ascendant, c'est différent pour moi en Australie. Ça veut dire autre chose que ce que ça veut dire dans le monde ICANN. Donc, c'est quand même délicat de mettre des choses comme ça dans les valeurs principales. Je ne savais pas que c'était différent en Australie. Nous avons Woody, Mike et Ray. Woody, je ne sais pas si ce micro fonctionne. Celui-là, il fonctionne, oui. Je suis Woody Vansnick, je suis le président de MPOC. Oui. Le processus multipartite ascendant a plusieurs faces, plusieurs visages. Certains d'entre nous aiment les visages de certains et d'autres aiment les visages des autres. Je voudrais qu'on commence une autre discussion. On devrait savoir qu'est-ce que c'est la base. Qui est la base? Qui est la base? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Est-ce qu'il manque la discussion? Je voudrais prendre l'exemple du groupe qui manque encore dans cette discussion, qui n'a encore pas de voix, c'est les ONG. Nous avons besoin d'eux. Les ONG sont impactées par toutes les décisions qui sont prises. Il y a des exemples que nous pouvons amener à la table. Les ONG perdent leur nom de domaine parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur nom de domaine, comment ils doivent être renouvelés, par exemple. Juste un petit exemple. Si nous ne leur donnons pas un espace pour qu'ils puissent travailler, parler de leurs inquiétudes, Dan, je peux vous dire que le processus multipartite ascendant ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas un espace pour travailler sur les problèmes des développements des politiques. Il devrait y avoir des politiques pour eux aussi qui leur permettent d'avoir le droit, d'avoir un nom de domaine et ne pas être dans un coin parce qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas la connaissance, ils ne savent pas la compétence d'être capable de participer dans l'écosystème comme il est aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense que ça devrait faire partie de la discussion. Qui est en bas? J'aimerais bien savoir et entendre du conseil d'administration de nous dire que s'ils pensent qu'il y a des parties prenantes qui manquent encore à la discussion, ce serait bon de savoir, d'avoir une bonne vue de qui est donc manquant, de façon à savoir que ceci est un modèle complet. J'aimerais entendre une idée là-dessus, une information là-dessus. Rafik, oui, un élément qui manque. C'est les développeurs de logiciels. Non, je pense que nous devons avoir plus de participation, c'est sûr. Rafik, merci, Bruce. Je pense que nous avons Mike et ensuite Brett. Mike Silber, merci beaucoup. Encore un point holistique, s'il vous plaît, ce n'est pas une critique, c'est le même problème pour beaucoup de groupes, beaucoup de réunions. Mes collègues au CCNSO ont reçu le message, il y a des gens qui font toujours la même chose. Cette communication doit être une communication, une interaction. Ce n'a pas être une examination croisée, du membre du conseil d'administration. Ce serait donc très utile si, en avançant, qu'on puisse avoir une explication de ce dont on parle, ce que les gens pensent de certains de ces problèmes, de questions. Si on a besoin d'une réaction du conseil d'administration spécifique, c'est bien, on pourrait en parler, on peut réagir dessus. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressée à comprendre quel est le processus. Vraiment, moi, j'ai pas eu de réponse sur ce qui... Je ne sais pas si c'est le bon forum de savoir qui manque à la conversation. Au lieu de rentrer dans une discussion en disant, est-ce que tous les gens qui sont autour de la table peuvent nous donner exactement qu'est-ce que ça veut dire, le modèle ascendant? Je pense que c'est un sujet intéressant, c'est utile, mais il faudrait qu'on fasse ça, que ce soit une examination croisée, détaillée de ce que le conseil d'administration pense ou quoi. Ce n'est pas utile, il faut qu'on rentre dans l'essence de la discussion. Et je voudrais encourager pour la prochaine réunion qu'il y ait d'autres, par exemple des diapositives sur la présentation, une présentation brève sur parce que certains d'entre nous aiment voir les choses avec ce que nous voulons faire et ce que l'on fait de mauvaise manière et ainsi de suite. il faudrait qu'on ait votre information de retour sur les processus, sur les réformes, sur les politiques, pour qu'on puisse s'inclure. Nous aimerions demander si on pourrait aussi nous interroger sur ce qu'on fait mal. Est-ce que vous voudriez que nous fassions mieux en avançant, pour qu'on puisse avancer, pardon. Rafik, je voudrais juste faire un commentaire ici sur les sujets que nous avons mis en place il y a plus de 2 semaines. Nous avons présenté au Conseil. Si vous aviez eu plein de temps pour les vérifier, si vous vouliez des clarifications, vous auriez pu le faire. Nous devons maintenant passer au prochain sujet. Bill, je vais donc dire qu'en premier rang, et ensuite Bill, gardez vos commentaires assez courts, s'il vous plaît. Je voudrais parler de la notion des origines des idées. Ray, au micro, pardon. Si les idées viennent de particuliers ou d'un groupe de particuliers, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce n'était pas une idée multipartite, d'un modèle multipartite. Certaines personnes ont dit ça, ont intimé, disons, cette idée. Quand les choses commencent, c'est qu'une personne a une idée et que d'autres personnes autour qui ont les mêmes idées pensent que c'est la bonne idée et s'engagent et vont de l'avant avec cette idée. C'est un processus multipartite. Vous n'allez jamais avoir un groupe de gens qui ne s'entendent pas bien et que les mettent tous dans la même salle et d'un seul coup le même eureka pour tout le monde. Donc, il ne faut pas être concerné par l'origine de l'idée. Et moi, je parle en particulier de certaines des inquiétudes, des commentaires qui ont été faits sur le papier du NOMCOM, a été fait par 4 individus sur le conseil d'administration, comme cela a été dit ici. Et cela a été dit plusieurs fois aujourd'hui. À la fin, les membres du conseil d'administration et les utilisateurs, ce sont les utilisateurs de l'Internet comme tout le monde, les utilisateurs finaux comme tout le monde. Et on est au conseil d'administration parce que on est mis là parce qu'on pense qu'on devrait avoir des idées et que de temps en temps, il serait peut-être utile de propager ces idées vers la communauté pour avoir une discussion. Donc, le processus ascendant ne veut pas dire que les idées doivent être initiées en bas. Ça veut dire que le travail doit aller à un certain moment vers le bas aussi. Donc, il n'y a rien qui peut arrêter quelqu'un qui écrit un article dans un journal et quelqu'un qui prend cet article et qui dit « Ah, c'est peut-être quelque chose sur quoi on devrait travailler. » Donc, je pense que souvent, nous sommes trop, disons, accrochés à nos notions de multipartite. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde est inclus dans le groupe? Et ainsi de suite. On manque le point de ce que l'on veut faire dans ce cas-là. Rafik, oui, Ray, ensuite Bill et après on fermera. Bill Drake, pardon, des choses intéressantes, des remarques intéressantes. En premier, nous n'avons pas soulevé la question du papier du board du conseil d'administration. Ce n'est pas notre sujet, ça n'a rien à voir avec notre conversation. Chris a utilisé ça en tant qu'exemple, pas moi. C'est pas pour ça que nous sommes venus, c'est pas de ce que nous voulions vous parler. Quand il s'agit de Mike, du point que fait Mike, je veux être très claire là-dessus. Nous ne sommes pas ici avec une idée que nous sommes en train d'examiner qui que ce soit. Nous sommes là pour engager un dialogue avec vous. Comme Ray l'a dit, nous pensons que vous êtes des gens qualifiés qui ont des idées. Et nous voulons savoir quelles sont vos idées sur les choses. Et il y a des questions qui sont spécifiques, qui ont des ramifications dans la communauté à travers beaucoup de processus. C'est un problème au niveau intellectuel. Ray, d'ailleurs, a dit cela ne veut pas dire que les idées doivent venir du bas. Ça veut dire que le processus va vers le bas aussi. Donc, c'est une compréhension différente du modèle ascendant. C'est un point analytique important, opérationnellement important aussi. Personne ne fait une examination, personne ne met à défi qui que ce soit. Je voulais être sûre que je sois, d'être claire là-dessus. Rafik, oui, merci Bill. Nous avons le défi maintenant de parler du prochain thème en 5 minutes. Alors, Cathy, je suis Cathy Kleiman. Et quand on parle du modèle ascendant, c'est le micro me dit que ça marche. Donc, est-ce que vous m'entendez? C'est Cathy Kleiman. Vous m'entendez maintenant? Quand on parle de modèle ascendant, je voulais parler un petit peu des groupes des experts, du groupe de travail des experts. Donc, ce que la diapo dit, c'est que nous avons des inquiétudes à propos de ce rapport, de ce groupe de travail. Et comment les réformes sont traduites en tant que politique ou entrées en tant que politique, introduites en tant que politique. Brièvement, le groupe de travail expert a fait beaucoup de travail et beaucoup de ce travail a été fait entre le rapport intérim et final. Beaucoup de choses ont été rajoutées et beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde m'entend dans le bas de la salle? Moi, je l'entendais. Oui, oui, yes, we do. Oui, on vous entend. Et on vous entendait déjà? Moi, je l'entendais. Ah, non, pardon. Alors, voilà donc les questions quand il s'agit du groupe de travail, quels sont les nouveaux points de critique, d'information. Beaucoup de gens pensent qu'il y a besoin d'une évaluation de SA, d'une évaluation des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Ça y est, vous voyez, on parle de liberté d'expression et tout s'arrête. C'est un rapport énorme et beaucoup de questions, surtout dans la version finale, des choses qui étaient optionnelles, qui sont devenues obligatoires. La question est que comment est-ce que cela va être posté pour un PDP et comment est-ce que cela va être introduit en tant que politique, surtout quand on voit toutes les procédures, toutes les choses qui sont passées au niveau du WIS. Vous les connaissez, vous connaissez ces problèmes. On parle de validation, de vérification à travers les bureaux d'enregistrement, sur les RER, le RAA 2013. Beaucoup dans cette salle ont travaillé sur les accréditations de la vie privée, dans le groupe d'accréditation de la vie privée. Comment est-ce que tout cela va être incorporé? Comment tout cela est rassemblé? C'était la question pour Chris Spain et pour les autres. Oh, Steve Crocker, merci. Cathy, merci beaucoup. Laissez-moi noter le travail excellent que vous avez fait quand il s'agit du rapport de WIS. Le rapport est donc publié en juin et maintenant il y a commentaires publics. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Rafik, je pense que ce qu'elle disait, c'est maintenant le rapport final qui a été, vous savez, été changé. Il y a eu des changements qui ont été ajoutés. Steve Crocker, est-ce qu'on a soumis le rapport final à un PDP? Pas encore. Comment ça se fait? Bon. Il n'est pas trop tard. Donc demain, un groupe de travail, par exemple dans lequel se trouve Avery, les gens du GNSO, des gens du conseil d'administration, et vont se rassembler et on va discuter de comment on va passer de cette instance à un processus de développement de politique. Et la chose initiale à faire, c'est de rassembler des questions comme celles qui ont été juste soulevées pour nous assurer que nous pouvons faire une liste de toutes les évaluations que vous avez à l'esprit. Donc voilà la discussion que nous allons voir demain. Nous n'avons pas pris d'engagement sur la période de temps pour un résultat final. Nous sommes maintenant à un point où nous essayons de voir quelles sont les questions qui sont soulevées par le groupe de travail des experts pour pouvoir aller dans une direction ou dans une autre. Est-ce que ça fonctionne maintenant?
Alors, avant d'en venir aux questions soulevées dans le rapport du groupe de travail des experts, est-il possible de créer une opportunité pour une période de commentaires publics? Chris Despaigne au micro. Oui, je comprends votre question et il y a un défi ici, un problème. Donc, vous avez un rapport. Donc, à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a une période de commentaires publics, ensuite c'est renvoyé et il faut réécrire le rapport. Et c'est ce qui s'est actuellement produit. Et en fait, je comprends ce que vous dites. Je pense que la réponse à votre question, c'est qu'effectivement, il faut en passer par l'étape à laquelle on en est maintenant. Parce que ce travail doit être fait par la GNSO et c'était l'objectif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'asseoir avec une série de personnes sélectionnées au sein de la GNSO pour parler du prochain processus. Dont, par exemple, pourquoi ne pas commencer par une période de commentaires publics? Mais je ne sais pas si ça sera nécessaire, si ce serait la meilleure chose à faire. L'idée, c'est qu'on n'a jamais fait cela avant. Donc, la question maintenant, c'est de savoir ce que la GNSO attend de nous du point de vue du processus. Et c'est ce qu'on va faire demain. Peut-être qu'on ne va pas prendre de décision demain, on va commencer à en parler. Donc, une chose est sûre, on ne va pas s'asseoir pour parler de la mise en œuvre de ce rapport, parce qu'on est très loin de cela. Il y a beaucoup de choses qui doivent se produire avant cela. Et si vous vous souvenez, l'une des questions que j'ai posées à l'un des membres de la GNSO, c'est que voudriez-vous que nous fassions avant? Ou plutôt, dans quelle mesure pouvons-nous collaborer à ce rapport? Voulez-vous une révision juridique? Donc, on a déjà posé cette question. Et l'objectif d'avoir ce petit groupe de travail réduit, c'est de voir ce que l'on doit faire pour avancer. Quelle est la prochaine étape? Rafik au micro, oui, Bruce aura le dernier mot. Très brièvement, pour mettre en œuvre cette nouvelle proposition de PDP, dans les statuts de la GNSO, il ne s'agit pas simplement de passer d'un rapport à la mise en œuvre. Et comme Chris l'a dit, c'est un rapport qui peut constituer un modèle possible sur la mise en œuvre de ce processus. Mais maintenant, on peut voir quelle est la politique qui sera nécessaire et comment avancer. Comme vous l'avez dit l'autre fois, c'est comme si on avait plusieurs versions du système qui est WHOIS et en même temps, on veut commencer un projet plus large pour créer de nouveaux services. Et donc, ces nouveaux services doivent être analysés de près sous tous leurs aspects. Steve Crock, un micro. Oui, j'aimerais insister sur ce que Bruce a dit. On ne va pas passer par un PDP, c'est encore trop prématuré. On en est au stade des discussions. Et je me tourne vers Avri qui va participer à cette réunion demain. Rafik au micro, merci. Nous allons devoir clore cette réunion parce que les membres du conseil d'administration doivent se rendre à la réunion du GAC. Merci à tous pour ces échanges. Steve Crocker, merci à tous.
didn't. I agree, but I didn't.